Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième numéro d'Histoire d'Outre-Manche. L'émission sera consacrée à une tradition musicale aussi fascinante que méconnue, celle de l'opéra et en particulier de l'opéra anglais. À l'animation, votre serviteur Frédéric, accompagné d'Élie, le pro de la technique. Après avoir présenté les origines de l'opéra, je m'intéresserai à deux figures emblématiques de l'opéra anglais, à savoir Henry Purcell pour le XVIIe siècle et Benjamin Britten pour le XXe. Ces deux grands compositeurs sont séparés par plus de deux siècles. Pourtant, ils ont donné à l'opéra anglais ses lettres de noblesse. Purcell a fait naître ce genre musical, tandis que Britten l'a fait renaître. Amis mélomanes ou en passe de le devenir, oubliez vos tracas, faites-le vide. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. N'oubliez pas votre casque ou vos écouteurs pour profiter pleinement de ce voyage musical. Êtes-vous prêt? Allez, embarquement immédiat. Parler de l'opéra et de ses origines, c'est dire au préalable un mot sur les masques au théâtre. Il s'agit de spectacles musicaux et théâtraux très populaires dans les cours européennes au XVIe et XVIIe siècle, et justement en Angleterre et en Italie. Ils combinent danse, musique, chant, poésie et de magnifiques costumes. Souvent, ils célèbrent des événements royaux. Ces spectacles ne racontent pas toujours une histoire complète, mais il pose les bases de ce que deviendra plus tard l'opéra, avec trois ingrédients. Une mise en scène spectaculaire, des personnages symboliques ou mythologiques, et surtout une musique pour accompagner et renforcer l'action dramatique. Mais alors, comment définir l'opéra et quelles en sont les premières manifestations? L'opéra est un spectacle en musique, un univers magique qui réunit le théâtre, la musique, le chant et les décors. À titre de comparaison, c'est en fait comme si, à sa naissance et avec son développement, l'opéra avait préfiguré le cinéma avant l'existence même de la caméra. Tout commence au début des années 1600 en Italie. Des musiciens et des poètes rêvent de recréer les grandes tragédies de la Grèce antique, mais en musique. C'est là qu'un compositeur du nom de Claudio Monteverdi crée en 1670 l'Orfeo, une histoire chantée, considérée comme l'un des premiers opéras. Très vite, ce nouveau genre devient populaire. Chaque pays d'Europe s'en empare. Les Français aiment les grands spectacles à la cour du roi, les Allemands y ajoutent leurs mythes, et les Autrichiens se passionnent pour les opéras de Mozart, comme la Flûte enchantée, par exemple. La France découvre Jean-Baptiste Lully avec l'opéra Thésée. Pour découvrir ou redécouvrir Claudio Monteverdi, je vous propose un extrait de l'œuvre L'Orfeo, un opéra qui date de 1607. Le sujet de cet opéra est tiré des Métamorphoses d'Ovide, dans lesquelles Orphée, incarnation du poète musicien, assure l'harmonie de l'univers. Vous venez d'écouter la toccata d'ouverture de l'opéra L'Orfeo de Monteverdi. Alors pendant ce temps, que se passe-t-il en Angleterre au niveau opéra? Eh bien pas grand-chose en réalité. C'est plus compliqué car chez les Anglais, on adore le théâtre shakespearien, mais l'idée de chanter toute une pièce semble un peu étrange au départ. Pourtant un compositeur anglais sort du lot et ose l'opéra. Il s'agit de Henry Purcell. En 1689, il compose un petit chef-d'œuvre, Didon et Énée, une belle histoire d'amour et de destin tragique, entièrement chantée avec une musique délicate et émouvante. Mais malheureusement, après ce coup d'éclat, plus rien, ou presque. L'opéra ne décolle pas vraiment à cette époque en terre anglaise. Les opéras composés par Purcell n'ont pas le succès escompté auprès de la cour. Le roi préfère des musiques de scène dans la tradition shakespearienne où la musique accompagne le drame théâtral. Paradoxe, le plus célèbre des auteurs d'opéra anglais est allemand. Handel réussit la prouesse de faire aimer l'opéra aux Anglais. Il s'installe à Londres et il compose des dizaines d'opéras en italien, car c'est la langue chic de l'époque pour l'opéra, un peu comme aujourd'hui l'anglais serait la langue chic de la pop musique. Ses œuvres, comme Jules César ou Alcina, ont beaucoup de succès. Elles sont pleines d'airs spectaculaires et d'intrigues passionnantes. Mais au bout d'un moment, le public anglais se lasse. Handel lui-même finit par changer de style et se tourne vers l'oratorio, un genre proche de l'opéra, mais sans mise en scène. Pour mettre en valeur le travail de Handel, je vous propose d'écouter l'aria « Ombrai mai fu », interprété par le contre-ténor Andreas Scholl et extrait de l'opéra intitulé « Cerse ». Alors pour votre culture et pour la mienne, une aria est une pièce de musique écrite pour une voix seule. Je vous propose à présent de découvrir la biographie de Purcell et une de ses œuvres majeures, Didon et Énée. Purcell naît près de Westminster en 1659. Il meurt jeune, à l'âge de 36 ans seulement. Son père est gentilhomme et chanteur à la chapelle royale de Londres. Il prêtera sa voix pour le couronnement du roi Charles II et il décède, le père, en 1664. Les informations sur son épouse sont rares et très peu documentées. Cela dit, Henry, le fils, est compositeur et il est pris en charge par son oncle Thomas à la mort de son père. L'oncle repère les dons musicaux et la qualité de la voix de son neveu Henry. Il le fait entrer comme choriste à la chapelle royale. Purcell est placé sous la protection bienveillante d'un compositeur anglais nommé Captain Cook, puis de Pelham Humphrey, lui-même, tenez-vous bien, un élève de Jean-Baptiste Lully. Ainsi, Purcell est très précoce et commence à écrire la musique à l'âge de 9 ans. Alors il compose pour l'église, la cour et le théâtre. Il devient rapidement l'un des musiciens favoris de la monarchie anglaise sous Charles II, puis Jacques II. Son style est unique, un savant mélange des influences françaises de Lully, de la rigueur italienne, mais aussi et surtout un sens très personnel du chant anglais, j'allais dire proche de l'inflexion de la langue parlée, c'est-à-dire qu'il joue sur les intonations de la voix. Purcell compose pour tous les genres, mais c'est dans le théâtre musical qu'il laisse son empreinte la plus marquante. Il épouse Frances Peters en 1680. On sait peu de choses sur sa femme. Elle naît en 1663. Elle est issue d'une famille de musiciens. Et ils auront ensemble 6 enfants, dont 4 meurent malheureusement en bas âge. L'étude de l'œuvre de Purcell reste assez impressionnante compte tenu de la courte existence du compositeur. Son œuvre dévoile également une autre affinité majeure du compositeur pour la scène. À partir de 1690, Purcell écrit de plus en plus d'œuvres scéniques et compose pour le Théâtre Royal 3 semi-opéras, King Arthur en 1691, The Faerie Queen en 1692 et dont la partition n'a été retrouvée, figurez-vous, qu'en 1901. Enfin, The Indian Queen 1695, qui a été laissée inachevée à la mort du compositeur et a été terminée par son frère Daniel. Après cette courte biographie, partons en voyage dans le monde baroque avec l'un des joyaux de l'opéra anglais, Didon et Énée. En moins d'une heure et en 3 actes, cette œuvre déploie une intensité dramatique rare. Elle mêle amour, destin, magie et mort. Dans la mythologie, Didon est la reine fondatrice de Carthage, connue pour son amour tragique avec Énée, un héros troyen. Énée, fils de Vénus, fuit Troie pour fonder une nouvelle cité guidée par le destin. Leur histoire d'amour, racontée dans l'Énéide de Virgile, se termine tragiquement avec le suicide de Didon après l'abandon d'Énée. Emprunté à ce récit de la mythologie, Purcell dévoile l'intrigue de son opéra ainsi. Dans l'acte 1, Didon, bien que tombée amoureuse d'Énée, hésite à l'admettre car elle craint de trahir son devoir de reine. Ses suivantes, et en particulier Belinda, l'encouragent à suivre son cœur. Énée arrive et propose de l'épouser. Didon finit par céder à ses sentiments. Dans l'acte 2, une sorcière malveillante avec ses complices veut provoquer la chute de Carthage. Elle envoie un esprit déguisé en Mercure pour convaincre Énée qu'il doit quitter Didon et reprendre sa mission de fonder une nouvelle Troie, c'est-à-dire Rome. Dans l'acte 3, Énée, troublée mais résolue, annonce à Didon qu'il doit partir. Elle se sent trahie et refuse ses excuses. Après son départ, elle se lamente et, dévastée par le chagrin, elle se donne la mort. Dans le premier extrait choisi, nous découvrons une reine tourmentée. Didon confie à sa suivante Belinda le poids de son angoisse. Cachez à sa majesté l'amour qu'elle porte à Énée. Oh, Belinda, Belinda tente de rassurer Didon. L'amour est une force. N'ayez aucune crainte. Et le cœur de l'opéra soutient cette lueur d'espoir. Mais tapis dans l'ombre, des forces obscures complotent, les sorcières. Elles sont là, cruelles, et réjouies à l'idée de détruire Carthage en brisant le cœur de Didon. Avez-vous ressenti la frénésie avec laquelle elles œuvrent, ces sorcières? Bon, tout semble se calmer sous l'œil bienveillant de Belinda. Elle et le cœur nous ravissent d'un moment pastoral où les bergers chantent leur bonheur simple, le calme avant la tempête.
Tears are tears.
voici justement le moment le plus bouleversant de l'opéra. Abandonné, trahi, Didon ne peut survivre à l'amour perdu. Voici son ultime adieu, une plainte déchirante devenue l'un des plus grands airs de toute l'histoire de l'opéra. Sublime moment empreint d'émotion, n'est-ce pas? Ainsi s'achève la présentation de Didon aîné de Purcell. Je voulais dire aussi que tous ces airs d'opéra de Didon aîné étaient orchestrés par le talent de Laurence Haïm. Cet opéra est une tragédie portée par une musique et des voix que je trouve personnellement bouleversante et que j'ai eu un immense plaisir à partager avec vous sur Radio Shalom dans Histoire d'Outre-Manche. Alors, quelques siècles plus tard, et nous voilà partis à la découverte d'un autre monument de l'opéra anglais, Benjamin Britten. Il naît le 22 novembre 1913 à Lowestoft, dans le comté de Suffolk. Il est considéré comme le plus grand compositeur britannique du XXe siècle. issu d'une famille mélomane, il commence l'étude du piano avec sa mère et montre très tôt un talent précoce pour la musique. À l'âge de 11 ans, il devient l'élève du compositeur Frank Bridge, puis étudie au Royal College of Music de Londres à partir de 1930. À cette même période, Britten voyage aux États-Unis. Là-bas, il compose sa première opérette, Paul Bunyan. Il rencontre le ténor Peter Pierce, qui devient son compagnon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il retourne en Angleterre en tant qu'objecteur de conscience et compose des œuvres majeures, comme Peter Grimes, créé en 1945. Britten est connu pour ses opéras, ses œuvres chorales et ses compositions pour enfants. Il fonde le Festival d'Aldeburgh en 1948, qui devient un événement majeur de la musique classique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte le War Requiem, composé pour l'inauguration de la nouvelle cathédrale de Coventry en 1962, et The Young Person's Guide to the Orchestra. En 1960, il rencontre le violoncelliste Rostropovitch, pour qui il compose plusieurs œuvres, dont la sonate pour violoncelle et piano, et les suites pour violoncelle. Britten est anobli par la reine Elisabeth II en 1973 et reçoit de nombreuses distinctions, dont l'Ordre du Mérite et l'Ordre des Compagnons d'honneur. Atteint de problèmes cardiaques, sa santé décline dans les années 1970. Il décède le 4 décembre 1976 à Aldeburgh, laissant derrière lui un héritage musical considérable. Benjamin Britten est aujourd'hui reconnu comme l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique britannique, dans la lignée de Henry Purcell. Nous voici à présent à la découverte d'un très bel opéra, daté du XXe siècle et composé par Benjamin Britten. Je veux parler de Peter Grimes. Pour composer cet opéra, Britten s'est inspiré d'un long poème narratif de George Crabbe, écrit en 1810 et intitulé « The Borough ». Le poème explore la vie quotidienne, les mœurs, les classes sociales, les professions et les vices d'une petite communauté maritime anglaise. Chaque « lettre » entre guillemets est un portrait ou une méditation morale sur un type de personnage. Le médecin, le clergé, les pauvres, les marins, les commerçants. Tout cela est souvent empreint d'un regard critique, parfois compatissant. La lettre 22 est consacrée au personnage de Peter Grimes. Grimes est défini comme un pêcheur brutal et marginal. Il maltraite plusieurs apprentis, dont des enfants. Plusieurs en meurent. Le village où il sévit finit par l'isoler, sans intervention directe, mais par indifférence au personnage. Il est snobé, ignoré. Rongé par la folie et par la culpabilité, Peter Grimes sombre dans la démence et meurt misérablement, seul. Britten et son librettiste Montague Slater ont repris le personnage de Peter Grimes, mais ils l'ont complexifié. Dans l'opéra, Grimes n'est pas un simple monstre. C'est un homme en lutte contre ses démons et contre la société qui le rejette. L'opéra introduit de la tragédie psychologique là où Crabbe brossait un portrait plus moral et social. Alors voici un résumé de l'intrigue de cet opéra. Dans l'acte 1, le pêcheur, Peter Grimes, est convoqué à une enquête après la mort accidentelle de son jeune apprenti en mer. Disculpé par le tribunal, les habitants du village continuent de le suspecter et le rejettent. Seul, il rêve de rédemption et d'une vie meilleure avec Helen Orford, une institutrice compatissante. Dans l'acte 2, Grimes prend un nouveau garçon apprenti. Helen découvre des marques de coups sur l'enfant et commence à douter. Le village s'enflamme contre le pêcheur, attisé par les soupçons. Pris de panique, Grimes fuit avec l'enfant, mais ce dernier tombe accidentellement d'une falaise et meurt. Dans l'acte 3, la foule organise une chasse à l'homme. Brisé psychologiquement, Grimes délire en mer. Malstrode, un vieux marin, tente de lui éviter la honte publique et lui conseille de couler son bateau. Grimes disparaît en mer. Le village reprend sa routine comme si de rien n'était. Peter Grimes, c'est un opéra où la tragédie individuelle se heurte à la brutalité collective. Mais c'est une œuvre puissante, moderne et profondément humaine. L'opéra s'ouvre sur une salle d'audience improvisée où Peter Grimes est jugé. La suspicion et les préjugés du village pèsent lourdement sur lui. Le thème central de l'opéra est alors posé. La confrontation entre l'individu et la communauté, entre la rumeur et la vérité. Peter Grimes, I here advise you, do not get another boy apprentice, get a fisherman to help you, big enough to stand up for himself. The verdict is that William Spode, your apprentice, died in accidental circumstances. But that's the kind of thing people are apt to remember. But when the promise is a promise, it's a battle fix, and there's a 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 fix, like every other fisherman, I have to hire an apprentice. I must have help.
Get a woman, help you look after him.
That's what I want, but not yet.
Why not?
Not till I've stopped people's mouths.
Stand down, clear the court, stand down.
Stand down, you say, you wash your hands. The case goes on in people's minds. The charges that no court has made will be shouted at my head. Let me speak, let me stand trial. Bring the accusers into the hall. Let me thrust into their mouths the truth itself. The sin, the truth itself. L'interlude orchestral Dawn qui suit évoque la mer à l'aube, grise et lourde de fatalité. Les cuivres instaurent une atmosphère lourde et pesante. Ils traduisent la solitude de Grimes. Omniprésente, la mer devient un personnage à part entière, miroir des tourments intérieurs du héros et du destin qui se prépare. Une tempête éclate. Tous les habitants se réfugient dans l'auberge, sauf Grimes. Isolé, il chante un monologue sur le destin humain. La musique traduit le chaos des éléments et la tempête intérieure qui agite Grimes. Ce passage met en lumière la violence du rejet social et la fragilité du personnage. Dans l'acte 3, Helen Horford chante l'air « Embroidery in Childhood ». Elle médite ainsi sur l'innocence perdue et la fatalité qui s'abat sur Peter et le jeune Moose mort accidentellement. La tension s'accentue alors que le village a décidé de lancer une véritable chasse à l'homme. Conseillé par ce vieux marin dénommé Bulstrode, Peter Grimes met fin à ses jours en faisant couler son bateau. Indifférente, la mer reprend son calme. L'interlude « Moonlight » souligne la mélancolie et la solitude extrême du héros à l'approche de sa fin. Si vous pensiez que l'opéra était réservé à une élite, j'espère vous avoir donné envie d'en écouter ou de le redécouvrir avec d'autres oreilles. Et pour terminer cette émission, voici un air de Purcell que j'affectionne tout particulièrement. Voici en partage pour vous « The Sparrow and the Gentle Dove ». Ainsi se termine le numéro 3 de l'émission Histoire d'Outre-Manche. Merci, merci beaucoup de votre fidélité. Au prochain numéro, je changerai totalement de décor puisqu'il s'agira de vous faire découvrir la vie passionnante et la carrière à succès des Beatles. À très bientôt pour une nouvelle escale dans l'histoire de la musique. Bye bye.